Alors, merci beaucoup Delphine de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous de venir écouter. Alors au début, j'avais donné comme titre Un mur peut en cacher un autre, topologie de la séparation entre Israéliens et Palestiniens. Et puis finalement, j'irais plutôt vers spatialité visqueuse. Deux points, les espaces au pluriel du régime de permis israélien. Pourquoi ? Parce que ma présentation porte sur les chaînes de médiation formelles et informelles que le système de permis de circulation que les Israéliens ont imposé depuis les années 90 aux Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza a contribué à développer entre les deux populations. Mon objectif, c'est de comprendre deux choses. Tout d'abord, dans quelle spatialité au pluriel, le régime de permis inscrit les Israéliens et les Palestiniens. Et la deuxième chose, c'est à partir de ces spatialités, et de la manière dont je peux comprendre comment elles s'articulent les unes avec les autres, c'est de comprendre quel type de processus de frontiérisation se met en œuvre dans cette région du monde. Alors mon approche s'inscrit dans une approche qui n'est pas très novatrice, puisque je reprends un peu, je m'appuie beaucoup sur Henri Lefebvre, qui a publié son ouvrage il y a déjà 43 ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas beaucoup. La production de l'espace, où l'enjeu n'est pas d'envisager l'espace à travers des formes, mais à travers la métaphore du flux. C'est-à-dire que l'espace n'est plus un objet, c'est plus un territoire, c'est plutôt des dynamiques et l'articulation de champs d'action de différents types d'acteurs. Alors là, j'entends acteurs au sens de la tour, c'est-à-dire pas des individus, mais des phénomènes d'individuation. C'est-à-dire, ça peut être des institutions, ça peut être des individus, des petits groupes, etc. etc. Donc, l'espace, si vous voulez, d'habitude, on a plutôt tendance à le représenter comme ça, surtout quand on travaille sur des chaînes de médiation, on essaie de voir comment les liens lient différents points sur une carte. Ben, moi, l'espace, je voudrais plutôt le regarder comme ça, c'est-à-dire comme des nuages de points et des arêtes, en fait, qui lient ces différents points les uns avec les autres. Et un flux, hein, quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors cette approche, elle me semble intéressante parce qu'elle permet d'envisager les effets du régime d'occupation israélien d'une manière très très différente par rapport à ce qui a été fait jusqu'alors. C'est-à-dire qu'il est possible d'envisager ces effets au-delà du seul confinement territorial des Palestiniens et au-delà de la mobilité physique et géographique des Palestiniens. Quand on parle de mobilité, on pense d'un mouvement d'un point à un autre sur un espace géographique. Or, la mobilité, du point de vue de Lefebvre, c'est la pratique spatiale, c'est donc des mouvements à l'intérieur d'un faisceau de relations et d'interactions. En adoptant la perspective que je propose, on peut appréhender comment ce régime de séparation affecte le positionnement des acteurs, non plus dans un espace géographique, mais les uns par rapport aux autres. Donc on ne parle plus de topographie, mais de topologie, c'est pour ça que je parlais de topologie de la séparation. Et puis on peut envisager aussi comment évolue la texture de leurs interactions, où on peut comparer la texture des interactions ou des formes de sociabilité des Israéliens par rapport à celles des Palestiniens. C'est ça qui m'intéresse. Et à travers ça, ce que je voudrais essayer de faire à la fin de cette présentation, c'est de repenser le type d'asymétrie que le régime de séparation a instauré entre Israéliens et Palestiniens. Alors avant d'en venir à mon terrain de recherche, je pense qu'il est peut-être indispensable en 5 minutes de préciser un certain nombre de concepts et notamment de souligner les limites que présentent les approches inscrites dans l'imaginaire territorial et national, surtout quand on traite d'Israël-Palestine. Alors la première limite, je dirais, des approches inscrites dans l'imaginaire national et territorial, c'est en fait qu'elles n'arrivent pas à prendre en compte la multiplicité des connexions que vous voyez sur ce schéma, et qui persiste entre des Palestiniens des territoires occupés, de Cisjordanie et de Gaza, avec des citoyens juifs israéliens ou palestiniens israéliens en Israël. Et pour cause, parce que ces approches inscrites dans un imaginaire national et territorial, elles tendent à réifier d'emblée l'idée d'une séparation entre ces deux populations. C'est comme si on avait par défaut une séparation entre Israéliens et Palestiniens. Tout d'abord parce qu'en posant l'appartenance nationale comme principe organisateur premier, voire même exclusif, ces approches, elles détournent l'attention d'autres types de liens qui ont aussi leur importance. Les liens de parenté, le partenariat économique, des liens d'amitié qui traversent ces populations. Le deuxième problème, c'est qu'en mobilisant l'espace, en modélisant l'espace à travers la métaphore du territoire, ces approches tombent dans le piège territorial que John Agnew nous évoquait en 1994 déjà, c'est-à-dire d'envisager une espèce d'isomorphie entre la nation, le territoire, la société, l'économie, etc., etc. Comme si tout était dans un cylindre avec cette espèce de rapport d'isomorphie entre tous ces étages. Et puis aussi de nous donner l'illusion, alors là c'est plus Agnew, mais c'est deux anthropologues, Gupta et Ferguson, qui écrivaient un article en 92 et qui disaient qu'il fallait arrêter de s'intéresser à savoir comment on avait des cross-border relations, des relations transfrontalières ou transnationales, etc., et d'essayer de s'interroger non pas sur la manière dont ces relations traversent les sociétés ou passent d'une société à l'autre, mais comment on en arrive à s'imaginer qu'elles traversent en fait. Comment on arrive à s'imaginer que les sociétés sont des espèces d'entités séparées de manière extrêmement discrète les unes par rapport aux autres, sans aucun lien entre les unes et les autres. Et le problème d'un tel cadre de pensée, c'est de poser, donc, comme je vous le disais d'emblée, une séparation entre les sociétés israéliennes et palestiniennes qui seraient séparées l'une de l'autre. On a deux nations, deux sociétés, deux territoires, etc. On vous parle d'imbrication, d'articulation et tout, mais elles sont toujours séparées l'une de l'autre. Et le cloisonnement de la recherche entre les recherches israéliennes et palestiniennes est à la fois une illustration et un facteur de cette tendance. Puisqu'à chaque fois qu'on continue à nous faire des recherches sur la société israélienne, on réimagine une nouvelle fois cette société israélienne séparée de la société palestinienne, et inversement. Donc on crée une prophétie qui s'autoréalise en permanence. Et même la sociologie critique, qui s'oppose justement, même les études postcoloniales, qui proposent systématiquement de décoloniser la recherche sur Israël et Palestine, la recolonise en permanence en réinstituant ces cadres coloniaux, territoriaux, nationaux, qui construisent ces espaces israélo-palestiniens aujourd'hui. Autre problème, c'est, avec l'approche du territoire, c'est d'envisager, comme je vous le disais, la mobilité comme une mobilité, de réduire la mobilité à une mobilité géographique, c'est-à-dire le déplacement d'un point A à un point B, et d'oublier que pour se déplacer d'un point A ou un point B, là, les géographes nous le rappellent systématiquement, eh bien, il faut mobiliser des ressources, il faut nouer des contacts, il faut déployer une pratique spatiale qui dépasse le territoire et qui s'inscrit dans des espaces de relations sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Alors, afin d'aller au-delà de ces approches territoriales et nationales, donc je reprends les travaux, enfin l'approche de Lefebvre. Alors, je vous la rappelle brièvement. Lefebvre envisage donc l'espace comme une production qui résulte en fait de l'articulation des champs d'action d'acteurs inégaux. L'espace donc n'est plus envisagé comme un objet, comme un conteneur qui serait extérieur et préexistant à un sujet observant. Donc on sort d'une approche cartésienne, on sort de l'idée qu'il y a un sujet et un objet, pour envisager un flux. Un flux dans lequel s'insère ce sujet ou ces différents sujets ou ces différents acteurs, et dans lequel, finalement, on a des acteurs qui ont du pouvoir, d'autres qui en ont beaucoup moins, d'autres qui en ont pas du tout, mais en tout cas, tous ces acteurs contribuent à coproduire ce flux et la manière dont les sociétés se déploient. L'espace chez Lefebvre, c'est la manière dont les sociétés se déploient et non pas un espèce de support matériel qui préexisterait à ces sociétés ou à ces sujets. Alors, cette production, elle peut être envisagée à travers trois types de dynamiques. Les espaces conçus, les espaces perçus et les espaces vécus. Les espaces conçus renvoient aux représentations hégémoniques des planificateurs, des autorités et des chercheurs, ou en tout cas des acteurs qui ont le pouvoir. J'insiste sur les chercheurs, parce que nous, on produit cet espace en permanence aussi. En tout cas, on y contribue. Ces représentations, elles sont matérialisées et véhiculées par l'architecture, les institutions, les règles, la littérature, scientifique, non scientifique, etc. Et les catégories coloniales israéliennes, reprise par les Palestiniens, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un Israélien, un Palestinien, etc., elles font partie de ces représentations hégémoniques. Et elles sont entretenues, d'ailleurs, par un certain nombre d'acteurs qui sont parfois même dans des positions très antagonistes les uns par rapport aux autres. Ces espaces conçus, ces régimes d'énonciation, si vous préférez, ces régimes de visibilité aussi, ils sont articulés, bien que toujours disjoints, c'est un peu le... Lefebvre, c'est le dispositif de Foucault à trois étages. Au lieu d'en avoir deux, vous avez deux étages. Vous n'avez pas simplement le régime d'énonciation et le régime de visibilité. Vous avez ces trois étages. Donc, premièrement, espace conçu. Deuxièmement, l'espace perçu, qui renvoie à quoi ? Qui renvoie finalement à l'agencement des champs d'action de différents acteurs dans la société. Et que moi, j'envisage, en reprenant un peu, en m'inspirant pas mal de la sociologie de la traduction, de Latour, Calon et Akrisch, c'est-à-dire que j'envisage cette pratique spatiale, cet espace perçu, comme des circulations à travers des réseaux, ou alors des circulations qui structure des réseaux sociotechniques qui sont composés d'humains, de non-humains. Alors les non-humains, c'est les routes, les téléphones portables, Internet, etc., etc. Et cette pratique spatiale, elle contribue à l'émergence d'infrastructures qui organisent la mobilité des membres d'une société, qui organisent leur rapport à l'environnement, mais aussi leurs relations qu'ils entretiennent avec eux. Il y a, alors c'est Larkin et puis Mauss, je crois, qui expliquent même que cette infrastructure, elle organise notre rapport sensible à ce qu'on considère comme étant le réel. Je vous donne deux exemples. C'est parce qu'il y a des routes et des téléphones portables que les membres d'une famille peuvent maintenir des relations relativement soutenues et qu'une famille, la famille Tartampion, peut exister, se sentir solide, etc. Ce n'est pas simplement des relations humaines. Mais c'est aussi parce qu'il y a des transports en commun complètement défaillants entre Aix et Marseille qu'on a l'impression que ces deux villes sont très très loin l'une de l'autre. Presque Aix est presque plus loin que Paris, etc., etc. Voilà. Et c'est donc parce que ces transports en commun ne fonctionnent pas qu'on a l'impression qu'il y a une distance entre ces deux villes, alors qu'elles sont à 30 km l'une de l'autre, on pourrait presque y aller en vélo. La troisième dynamique à laquelle on peut envisager, ne vous inquiétez pas, après je vais revenir, on va revenir très terre à terre, avec une bonne anthropologie à la papa, mais je pense que je vais m'appuyer sur ce cadre théorique, donc je voudrais qu'il soit clair pour tout le monde. La troisième dynamique à travers laquelle on peut envisager l'espace est celle des espaces vécus. Donc espace conçu, espace perçu, et espace vécu. Alors là, on est à un niveau un peu plus individuel, plus existentiel. Autant la pratique spatiale, on est dans une perspective globale sur l'espace. Ici, on se place davantage au niveau du sujet, presque, hein, ou des acteurs, qui ne seraient pas des sujets, mais des phénomènes d'individuation. Et il s'agit ici, si vous voulez, à travers laquelle ces acteurs s'approprient dans leur trajectoire quotidienne les conditions qui prévalent dans la pratique spatiale, dans ces espaces perçus, donc dans ces infrastructures. Alors c'est la position personnelle, les relations de pouvoir qu'on entretient avec son environnement, les ressources qui sont accessibles, etc., etc., le nombre de téléphones portables qu'on a, mais aussi dans les représentations de l'espace, c'est-à-dire dans les espaces conçus. Parce que finalement, ces régimes d'énonciation préexistent la plupart du temps au sujet, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les récupère et qu'on essaye de faire sens du monde qui nous entoure à travers ces récits, ces régimes d'énonciation, et puis aussi à travers certains régimes de visibilité, hein, que sont la cartographie, les modèles visuels que fournit le territoire. Le territoire, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement un concept. Le territoire, c'est, si on reprend Lefebvre, c'est une espèce de projection géométrique de l'espace, où on réduit l'espace à une forme d'étendue. D'ailleurs, quand on parle du territoire national, c'est un espace qui est homogène, isotope, hein, dans lequel on peut appliquer une métrique. Hein, tous les points, finalement, peuvent être comparés. La distance entre chaque point peut être comparée l'une avec l'autre. Et puis dans ce territoire, on découpe des formes. On est dans un modèle visuel très, très plat. Il y a deux dimensions, trois même. Mais on reste dans une forme, dans une surface, hein, qu'on peut travailler et qui est un objet extérieur au sujet. Dans le flux, avec Lefebvre, on change déjà de modèle de visibilité parce que le rapport sujet-objet n'est plus du tout construit de la même manière. Voilà pour les régimes de visibilité, les régimes d'énonciation. Et donc, en fait, c'est donc dans ces infrastructures, dans ces régimes de visibilité et d'énonciation qu'on on pioche en fonction des compétences qu'on a, du vécu qu'on a, etc., et qu'on refait des combinaisons, un peu comme De Certeau le disait, et qu'on arrange, qu'on construit notre propre appareillage pour construire notre rapport à l'espace. Et ces trajectoires, ces combinaisons quotidiennes, eh ben, elles contribuent à leur tour, au fur et à mesure, à différentes échelles, à coproduire cet espace, donc à changer l'articulation des champs d'action entre les acteurs, donc les infrastructures, à modifier un peu les régimes d'énonciation, etc., etc., etc. Donc ce sont trois dynamiques qui s'articulent les unes avec les autres et qui s'autodéterminent, mais qui sont aussi elles, déterminées par des logiques un peu différentes les unes des autres. Alors dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous montrer comment s'articulent ces trois dynamiques dans la mise en œuvre du régime de séparation et surtout dans la mise en œuvre du régime de permis qu'ont imposé les Israéliens aux Palestiniens depuis les années 90. Alors comment je vais faire? Tout d'abord, je vais essayer de souligner les divergences ou les décalages qui existent entre ces espaces conçus, c'est-à-dire la manière dont le régime de permis réorganise les limites territoriales des espaces israélo-palestiniens. Donc comment il réorganise les territoires, hein, et c'est pas simplement un objet, le territoire, c'est une projection dans l'espace. Et de l'autre côté, donc entre ces territoires et puis, d'un autre côté, la pratique spatiale, qui sont en fait l'ensemble des réseaux de relations et de connexions sur lesquels ce régime de permis doit s'appuyer pour fonctionner. Donc c'est les relations entre les institutions israéliennes, palestiniennes, étrangères, c'est les relations entre les passeurs, etc., etc., les avocats, les ONG et compagnie. Et puis ensuite, en me reposant davantage sur les recherches ethnographiques que j'ai faites et sur les chaînes de médiation formelles et informelles qui se développent dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime de permis, je vais essayer de vous montrer comment les trajectoires, donc ces espaces vécus par les acteurs sur le terrain, viennent transformer ou actualiser, si vous voulez, cette pratique spatiale et ces espaces conçus. Hein, comment ils les réorganisent et ils contribuent soit à les modifier, les transformer, introduire des lignes de fuite, ou alors au contraire à les renforcer et à donner l'illusion finalement qu'on a bien une séparation très claire entre Israéliens et Palestiniens. Alors, tout d'abord, comment le régime de permis a réorganisé les limites des espaces israélo-palestiniens ? Début des années 90, l'émergence du régime de permis de circulation n'a pas seulement mis fin à la relative liberté de mouvement que les Palestiniens avaient eue depuis 1967 dans l'espace israélo-palestinien, mais elle a contribué à remplacer un système de contrôle par un autre. En fait, ce qui se passe, c'est que de 67 à 87, on a un système colonial avec une intégration de la population locale à l'économie, à un ensemble de choses, mais une population qui est maintenue à l'extérieur de la communauté politique, hein, et tout ceci pour assurer une certaine prospérité et éviter toute rébellion. Et puis à partir de 87 et des années 90, on passe au régime de séparation. Alors les premières restrictions de mouvement, elles apparaissent pendant la première intifada entre 87 et 93, où l'armée, avec d'autres mesures sécuritaires, comme des couvre-feux, des bouclages, va essayer de réprimer le mouvement palestinien. Alors ces restrictions de mouvement, elles vont généraliser, elles vont empêcher finalement les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza d'entrer, ou en tout cas filtrer ou réguler l'entrée des Palestiniens en Israël. Elles se généralisent et elles vont même inclure Jérusalem-Est, qui fait partie des territoires occupés, mais qui va être exclu des zones de circulation des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Alors ces régulations, elles recouvrent des enjeux économiques et politiques, hein, pas simplement sécuritaires, puisque limiter le nombre d'entrées des Palestiniens en Israël à l'époque, ça veut dire repenser complètement l'articulation du marché du travail palestinien-israélien. Parce qu'à l'époque, vous avez plus de 40% de la main-d'œuvre du bâtiment israélienne qui est palestinienne, plus de 30% dans l'agriculture et dans le tourisme, on est à 15-20%. C'est 7% de la main-d'œuvre israélienne totale, la main-d'œuvre palestinienne à l'époque. Mais c'est aussi repenser le mode de contrôle des Palestiniens. Comme je vous le disais tout à l'heure, intégrer la population à l'économie israélienne, c'est une manière d'assurer un certain niveau de prospérité, hein, de rendre les Palestiniens dépendants des Israéliens, et donc de maintenir cette population sous tutelle et d'éviter qu'elle se rebelle. Donc si vous voulez, le régime de permis, il a contribué à réorganiser l'articulation économique et politique des espaces israélo-palestiniens et à permettre à mettre en œuvre le projet de séparation, qui est un projet défendu à l'époque par la gauche israélienne et notamment par Yitzhak Rabin. Alors ce régime de permis va contribuer aussi largement à l'émergence de nouvelles frontières, enfin des frontières qui n'ont pas de nom, hein, puisqu'on parle de limites, mais pas de frontières entre Israéliens et Palestiniens. Dans les premières années, ce régime va se mettre en place, donc dans les années 90, en parallèle au retrait de l'armée israélienne des zones autonomes et semi-autonomes, de la création des zones semi-autonomes palestiniennes, vous voyez en rose, et dans cette espèce de rose très pâle, en fait, en Cisjordanie, donc rose pâle reste sous administration israélienne, 60% du territoire de la Cisjordanie, 30% de la bande de Gaza. Et le reste est, dans le reste, les Israéliens délèguent l'administration de la population civile et d'une partie de la sécurité à l'autorité palestinienne. Alors, au départ, les permis ne sont demandés que quand les Palestiniens traversent la ligne verte, qui est en noir ici, hein, qui est la frontière qui sépare la Cisjordanie et Israël. Et puis progressivement, dans les années 90, les Palestiniens vont devoir obtenir des permis pour entrer dans les colonies israéliennes. qui sont simplement dont les zones de juridiction ne s'étendent pas sur l'ensemble de la zone sous juridiction israélienne. Donc on a, en plus de ça, d'autres frontières qu'on ne voit pas très bien. Et puis progressivement, donc après les échecs, l'échec des négociations de Camp David en 2000 et puis le déclenchement du second soulèvement palestinien, les gouvernements israéliens et l'armée vont décider de réorganiser leur système de contrôle dans les territoires occupés. Alors d'un côté, pour montrer à l'opinion publique que les gouvernements et l'armée prennent de mesures tangibles, vous avez trois types de mesures. Tout d'abord, alors une réduction drastique du nombre de permis octroyés aux Palestiniens, hein, qui chute littéralement. On n'avait plus que quelques milliers de Palestiniens qui sont autorisés à rentrer légalement. Vous avez aussi la construction du mur de séparation à partir de 2002, qui est une véritable théâtralisation de la séparation. Et puis vous avez le retrait de la bande de Gaza en 2005. D'un autre côté, afin de réprimer la rébellion, l'armée réinvestit les villes et les villages palestiniens dont elle s'était retirée dans les années 90, et elle déploie un ensemble de dispositifs de contrôle. Alors vous avez des checkpoints, des blocs de béton, des tours de guet, des tranchées, des barrières à l'entrée des villes, des barrières routières, qui vont permettre de quadriller littéralement la Cisjordanie et de renforcer l'enclavement des Palestiniens à l'intérieur des enclaves palestiniennes. Alors l'objectif, vous avez quatre objectifs, hein. Sécuriser les déplacements des colons israéliens pour pas qu'ils se fassent attaquer par les Palestiniens, réduire les capacités d'action des groupes armés palestiniens, renforcer la capacité de surveillance israélienne autour et à l'intérieur des enclaves. Et évidemment, toutes ces mesures vont renforcer le confinement et la fragmentation des Palestiniens pour atteindre un niveau qui n'a jamais été connu par le passé. Alors, ce qui se passe, c'est que les circulations entre Gaza et la Cisjordanie sont complètement interrompues à partir de 2000. Les Israéliens ne donnent plus de permis aux Palestiniens pour aller de Cisjordanie à Gaza. Et puis à partir de 2005, les Gazaouis ne peuvent plus entrer en Israël. Il n'y a plus de permis, à part pour quelques privilégiés. En Cisjordanie, vous avez par contre de nouvelles limitations de mouvement et des nouveaux permis qui sont créés pour se déplacer entre les enclaves palestiniennes avec une voiture. Il faut un permis. Pour avoir accès à certaines routes, il faut un permis. Pour rentrer dans certaines zones, comme la zone qui est prise entre le mur et l'ancienne ligne verte, c'est-à-dire l'ancienne ligne qui séparait Israël de la Cisjordanie, qui est une zone assez importante, là aussi, il vous faut un permis. Pour rentrer dans la vallée du Jourdain, il vous faut un permis, etc., etc. Donc en fait, les limites que vous voyez sur cette carte ne rendent pas compte de la moitié des limites qui se déploient, que mettent en œuvre ce système de permis. Alors vous avez de nombreuses recherches qui ont essayé de modéliser les configurations territoriales extrêmement complexes que ces mesures ont fait émerger. Alessandro Petti, qui est un architecte italien, parle de la coexistence d'un archipel israélien ultra connecté avec des routes de contournement qui évitent les zones palestiniennes. Et puis vous avez un archipel extrêmement d'enclaves palestiniennes, extrêmement fragmenté. Il y a certains chercheurs qui comparent la Cisjordanie à Managua, par exemple. Hein, vous avez des routes et des hélicoptères qui permettent de lier les banlieues les plus riches. Et par contre, les bidonvilles sont complètement fragmentées les uns des autres. D'autres chercheurs, comme Adi Ophir et Ariella Azoulay, conceptualisent ce système comme une inclusion exclusive. C'est-à-dire que, au-delà de l'exclusion des Palestiniens, le régime d'occupation israélien permet aux Israéliens de conserver des puissants leviers pour affecter le fonctionnement de l'économie, de la société et de l'arène politique palestinienne. Et d'ailleurs, si vous lisez les rapports, un rapport assez récent de 2011 fait par un des membres de la Banque d'Israël, vous voyez que le régime de permis est considéré comme un levier politique, sécuritaire, extrêmement précieux aux mains des Israéliens. Alors vous allez me dire, beaucoup de gens disent, mais il y a très peu d'ouvriers palestiniens finalement qui passent en Israël. Alors les chiffres de la banque, mais personne n'est d'accord sur les chiffres. Et même ce rapport disait, on est incapable d'avoir de véritables chiffres qui tiennent la route. Il y aurait eu 60 000 personnes justement en 2011 qui passaient, certaines avec des permis, d'autres sans permis. N'empêche que, du point de vue des dirigeants israéliens, c'est un système de régulation stratégique. Ça permet de mettre la pression économique, politique, etc. sur les Palestiniens, bien plus que d'autres choses, et de manière extrêmement discrète en plus. Alors, donc, un dispositif d'exclusion inclusive, et puis finalement, régime de permis, il a introduit aussi, pour beaucoup de chercheurs, un niveau d'incertitude énorme dans la vie des Palestiniens, puisque... Alors vous avez des dispositifs de contrôle dont je vous en ai parlé, vous en avez à peu près 500, hein, ces checkpoints, tas de terre, blocs de béton, etc., barrières, en Cisjordanie, sur un tout petit territoire, c'est 150 km de long, de nord au sud, 50 d'est en ouest à peu près, mais ils bougent tout le temps. Donc il est extrêmement difficile de planifier une trajectoire. Et c'est fait pour, d'ailleurs. C'est pour, l'armée le dit, pour éviter que des terroristes puissent se déplacer de manière extrêmement rapide pour attaquer les cibles israéliennes. Eh bien, dans le régime de permis, même récit, quand il y a un avocat qui s'appelle Yael Berda, qui a fait un travail extraordinaire sur le régime de permis israélien, et qui dit qu'à chaque fois qu'elle demande comment ça fonctionne, on lui dit « mais on ne veut surtout pas le dire, parce que si on le dit, les gens vont comprendre comment contourner le fonctionnement de ce système ». Et ils vont pouvoir aller poser des bombes à Tel Aviv, etc., en utilisant des permis de passage. Donc, si vous voulez, le système de permis, comme l'ont montré tous ces chercheurs, c'est qu'il réduit l'étendue de la circulation des Palestiniens, il bouleverse leur trajectoire, et il bouleverse aussi leur rapport au temps. Toutefois, comme je l'ai dit plus tôt, de mon point de vue, le problème de ces travaux, c'est que ils envisagent surtout l'espace à travers le territoire, ou un peu comme un, et parfois comme un paysage. Donc on est toujours dans une projection cartésienne, vous avez le sujet, l'objet, et un espace qui préexiste au sujet. Alors je voudrais maintenant poursuivre l'analyse des effets du régime de permis sur la pratique spatiale des Palestiniens, mais la pratique spatiale non pas entendue comme une mobilité géographique, mais la pratique spatiale entendue comme au sens où Henri Lefebvre l'a défini, c'est-à-dire l'articulation des champs d'action des différents acteurs au sein d'une société, c'est-à-dire la manière dont se déploie une société. Alors évidemment, je vais zoomer sur le régime de permis, je ne vais pas parler de toute la société israélienne et palestinienne, mais si on zoome sur le fonctionnement du régime de permis, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit déjà un espace beaucoup moins séparé que ce qu'on nous dit dans ces représentations hégémoniques de l'espace. D'un point de vue institutionnel et individuel, le régime de permis se repose et dépend fortement des réseaux socio-techniques, formels et informels, qui lient Israéliens, Palestiniens et même un certain nombre de consulats étrangers, la Croix-Rouge, des ONG, etc. Alors, en me reposant sur le concept d'infrastructure que j'ai mentionné plus tôt, alors quand on parle d'infrastructure, ce n'est pas une approche institutionnelle, au contraire, c'est justement comment vous avez des articulations entre les institutions et puis tous ces acteurs informels. L'infrastructure, c'est un peu comme l'agencement de Deleuze, c'est-à-dire c'est l'ensemble d'un ensemble d'éléments extrêmement hétérogènes qui s'articulent avec des acteurs qui sont antagonistes, des intérêts antagonistes, et qui finalement créent une forme de phénomène d'individuation. C'est-à-dire quelque chose qui s'impose et qui crée du sens. C'est un peu comme un Léviathan, d'une certaine manière. Alors, en me reposant donc sur ce concept d'infrastructure, je vais essayer de voir comment le régime de permis organise des formes de médiation et de circulation entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi comment il contribue à structurer la mobilité géographique des Palestiniens. Alors, ce système de permis, ce n'est pas une institution, contrairement à ce qu'on dit, c'est un système qui repose sur des substrats extrêmement hétérogènes. Ce que dit justement cette juriste Yael Berda, c'est que le système de permis résulte d'un processus de décision ad hoc et de décret qui ont contribué au fur et à mesure des années à articuler des institutions israéliennes extrêmement diverses. Alors ça va du ministère de l'Intérieur, de la Défense, de l'Agriculture, de l'Économie, du Tourisme, aux différentes branches de l'armée israélienne, l'administration civile, le bureau de coordination avec les Palestiniens, et puis vous avez les services de renseignement israéliens, qui sont jamais nommés dans le schéma organisationnel, mais qui pourtant dirigent tout. Ils sont jamais nommés dans les rapports non plus. Et puis vous avez aussi la police israélienne, etc., etc. Vous avez, à côté de ça, c'est un fonctionnement d'autant plus compliqué que vous avez les Israéliens, mais vous avez aussi les Palestiniens, puisque dans les années 90, pour que ce régime de permis fonctionne et que les demandes des Palestiniens remontent aux administrations israéliennes, eh bien, il faut des organisations palestiniennes pour relayer ces demandes de permis. Donc vous avez aussi des bureaux de coordination palestiniens. Et puis vous avez la Croix-Rouge internationale qui va relayer... alors je ne sais plus, pour 2011, je crois, c'était 192 000 demandes de permis. C'est-à-dire trois fois plus que le nombre de permis demandés pour les ouvriers qui passent de Cisjordanie en Israël. les consulats, consulat de France, consulat des États-Unis, etc. Chaque fois qu'un Palestinien doit venir à Jérusalem, il lui faut un permis. Donc vous avez des milliers et des milliers de permis qui sont demandés chaque année, non pas majoritairement par des organisations israéliennes ou palestiniennes, mais par des organisations étrangères. Alors l'implication de ces acteurs extérieurs, elle est loin d'être marginale en nombre, je vous l'ai démontré, mais sur le plan administratif, sur le plan pratique, tous ces acteurs, à force de régularité, organisent des procédures, rationalisent des pratiques, etc., et donc installent, intègrent à l'intérieur de ce régime de permis, de cette infrastructure, de nouvelles procédures. Hein ? Vous avez un schéma qui se complique sans arrêt. Un niveau plus individuel maintenant. Laissons les institutions de côté. Les procédures de permis, elles donnent un rôle central au réseau interpersonnel dans la mesure où elles nécessitent systématiquement l'intervention d'un garant israélien. C'est un peu comme quand on demande un visa pour aller en France. Dans certains pays, il faut quelqu'un qui dise « Ah ben voilà, cette personne va bien vivre chez moi », etc., etc. Donc un Palestinien désireux d'obtenir un permis doit contacter un employeur israélien qui va se tourner vers les autorités compétentes. Alors s'il ne l'a jamais fait, lui aussi, il va devoir suivre une procédure assez complexe. Donc il va tout d'abord dans le bâtiment, par exemple, parce que ça ne marche pas partout pareil. Dans l'agriculture, ce n'est pas la même procédure. Dans le tourisme, ce n'est pas la même procédure, etc. Donc dans le bâtiment, il faut se tourner vers la division des paiements du ministère de l'Économie qui va déterminer si l'employeur est éligible, ou pas éligible. Si oui, la division des paiements va demander des informations sur l'ouvrier palestinien. Donc c'est le numéro de carte d'identité, l'adresse, le téléphone. La division des paiements envoie cette demande au service d'emploi de l'administration civile, la branche de l'armée israélienne qui s'occupe des Palestiniens dans les territoires occupés, qui va se rapprocher des services de renseignement pour voir si la personne n'est pas recherchée ou blacklistée pour des questions sécuritaires. Et si tout va bien, ce Palestinien va obtenir un permis. Donc si on reprend le schéma, mais alors ultra simplifié, vous avez un ouvrier palestinien qui contacte un employeur israélien, qui va contacter la division des paiements, qui va contacter les services de renseignement israéliens. Si tout marche bien, on reçoit un permis. Alors les choses se complexifient parce que les Israéliens ont déjà organisé des moyens de contourner un peu tout ça. Si vous connaissez un membre du Parlement israélien, en général, ça va beaucoup plus vite. Si vous connaissez un fonctionnaire israélien bien placé, ça peut aller aussi beaucoup plus vite. Tout ça est légal, tout ça est formel, mais vous avez déjà des canaux qui viennent complexifier eux aussi ce schéma. Alors ces chaînes de médiation, elles nous amènent à poser la question suivante, c'est est-ce que c'est le profil des gens qui comptent ou est-ce que c'est le réseau ? Si vous regardez toutes les recherches qui sont faites sur le régime de permis, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont un peu obsédées par l'imaginaire national et les catégories nationales. Les recherches postcoloniales en première ligne, l'objectif, c'est de dénoncer un régime inique où vous avez des ethnoclasses, c'est-à-dire que en fonction de l'appartenance ethnique ou religieuse, on n'a pas les mêmes droits, les mêmes statuts, c'est vrai. Mais à force de vouloir tout le temps démontrer ça, on réifie ces catégories et on en fait le principe organisateur premier. Or, ce qu'on voit clairement ici, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est palestinien, il faut demander un permis, mais ça ne suffit pas. Après, est-ce qu'on va l'obtenir ou pas l'obtenir, ça va dépendre du réseau dans lequel on s'intègre. C'est l'identité du sponsor et le secteur d'activité qui va déterminer la procédure. Donc déjà, un niveau formel, c'est même plus le profil, c'est la personnalité et l'identité du garant. Dans l'agriculture, dans le bâtiment, c'est pas la même procédure. Si on va cueillir des pommes et si on va cueillir des pêches, l'âge légal pour cueillir des pêches et pour cueillir des pommes n'est pas tout à fait le même. Les sponsors n'ont pas les mêmes motivations, pas la même efficacité, pas la même capacité d'influencer les décisions de l'administration. Donc pareil, c'est pas la même chose. Le permis n'est pas obtenu de manière aussi rapide et avec la même facilité. L'obtention d'un permis, ça dépend donc de son réseau, mais ça dépend aussi des réseaux que vous imputent les services de renseignement israéliens. C'est-à-dire que vous êtes... c'est Stéphanie Latabdala qui parle de toile carcérale, mais on peut parler de toile virtuelle que construisent les services de renseignement et qui considèrent que si vous avez eu quelqu'un qui a été tué par l'armée israélienne dans votre famille, vous êtes quelqu'un de dangereux. Donc en fonction des connexions que eux vont faire et qui vous échappent complètement... vous n'avez pas tout à fait le même accès au permis. Donc vous avez votre réseau de relations, vous avez le réseau de relations que construisent les services de renseignement, Hein, et puis vous avez bien entendu là où vous êtes, etc., etc. Vous avez multiples réseaux de relations qui vont s'articuler les uns avec les autres et qui vont, eux, déterminer si vous obtenez un permis ou pas. Enfin, quelqu'un, comme je vous disais, qui ne répond pas forcément aux critères d'éligibilité peut contourner ce système avec un fonctionnaire israélien bien placé, ou alors si on travaille pour les services de renseignement israéliens, là, effectivement, tout devient beaucoup plus facile. Alors la manière dont ces réseaux régulent, ou ces infrastructures, si vous voulez, elles régulent l'accès des Palestiniens à une mobilité géographique, est d'autant plus complexe à saisir. Hein. On ne peut pas vraiment faire de photos parce que ça change tout le temps. C'est une topologie extrêmement dynamique. Et je vais essayer d'illustrer pourquoi. Alors, c'est lié à l'évolution des conditions politiques, économiques et sociales qui font évoluer sans arrêt les relations entre les institutions, mais c'est lié aussi aux multiples réappropriations que font les acteurs sur le terrain. Donc ces trajectoires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on descend un peu aux espaces vécus, c'est-à-dire la manière dont les acteurs actualisent finalement l'environnement dans lequel ils vivent en faisant leur propre combinaison. Alors tout d'abord, ce qu'on note, quand je vous disais que c'est une topologie dynamique, c'est qu'on note tout d'abord la multiplication des médiateurs juridiques au cours des 20 dernières années. Le tournant des années 90-2000 a été marqué par l'investissement croissant des ONG et des avocats au sein de l'infrastructure du régime de permis. C'est dû à un ensemble de facteurs. C'est tout d'abord le processus de judiciarisation du politique dont vous avez tous entendu parler, qui affecte Israël-Palestine autant que d'autres pays dans le monde, où la mise en œuvre des mécanismes de contrôle israélien et les problèmes de droits de l'homme que ça soulève a stimulé des mobilisations de nombreuses ONG et de nombreux avocats. Maintenant, les problèmes ne sont plus politiques, ils sont judiciaires et donc juridiques, et donc on les traite de manière juridique. Alors ces médiateurs, ils ont joué un rôle fondamental. Tout d'abord, ils ont permis de créer un corpus de connaissances sur le fonctionnement de ce régime, hein, que les autorités s'efforcent sur lesquelles elles s'efforcent de maintenir une opacité extrême. Et ensuite, ils jouent le rôle d'intermédiaire pour aider les Palestiniens, faciliter l'obtention. Donc là encore, on a encore des intermédiaires, hein, qui apparaissent. Et les avocats ont joué un rôle de plus en plus important, que le nombre de Palestiniens qui a été blacklisté a explosé pendant la deuxième intifada. Je vous donne des chiffres. Dans les années 90, vous avez quelques milliers de personnes qui sont blacklistées, quelques milliers de Palestiniens. Entre 2000 et 2005, vous avez 260 000 personnes qui vont être blacklistées, un quart de million de Palestiniens qui étaient blacklistés. Et donc, à chaque fois que vous êtes blacklisté, il faut aller voir un avocat, essayer de faire un recours à la Cour suprême, etc., etc., pour espérer peut-être obtenir la possibilité de sortir de cette liste noire. Alors, les réseaux qui lient les Palestiniens à leurs employeurs et aux institutions israéliennes, donc, si vous voulez, d'une certaine manière, se démultiplient. Vous êtes de plus en plus d'intermédiaires, mais vous avez aussi une extension des chaînes de médiation. Pourquoi il y a une extension des chaînes de médiation? C'est que depuis l'éclatement de la seconde intifada, le nombre d'intermédiaires assurant le lien entre les travailleurs palestiniens et leurs employeurs israéliens a considérablement augmenté. Avant, dans les années 90, les employeurs israéliens, ils allaient chercher leurs employés directement dans les territoires occupés. À partir des années 90, ils y vont de moins en moins. Et puis dans les années 2000, ils y vont presque plus. D'abord parce qu'ils sont interdits par l'armée israélienne, qui tient les villes et les villages palestiniens. Et puis ensuite, il y a de plus en plus d'attaques contre des Israéliens. Donc du coup, les entrepreneurs ont vraiment peur d'y aller. Donc qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez plus simplement un médiateur palestinien, mais alors vous en avez plein. Donc vous avez des gens, et puis alors, comme les permis sont de plus en plus rares, vous avez une démultiplication du nombre d'intermédiaires, parce qu'on vend des numéros de téléphone, ou un petit contact avec quelqu'un, ou avec quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui aura un numéro de téléphone. Hein. Donc vous avez une démultiplication de ces réseaux de médiation. Alors les médiateurs légaux et les médiateurs, enfin, légaux, pas dans le sens, vous avez des légaux et illégaux, hein, les médiateurs juridiques, par contre, pardon, et les médiateurs informels sont donc venus accroître le nombre de connexions au sein des réseaux de recrutement, mais ils ont aussi augmenté la distance topologique entre les demandeurs de permis. La distance topologique, c'est donc les gens n'ont pas bougé, hein, dans l'espace, Tel Aviv et Ramallah sont toujours au même nombre de kilomètres. En revanche, vous avez de plus en plus de connexions entre Tel Aviv et Ramallah, mais le nombre de connexions, le chemin dans ces connexions est de plus en plus long. Donc, si vous sortez de cette approche territoriale qui pense la séparation en termes de distance géographique et de métrique, dans un espace isotope, hein, dans cette espèce d'étendue, et que vous pensez ça en termes de schéma, comme je vous le montrais tout à l'heure, vous avez une démultiplication des connexions avec la séparation. Donc les gens sont de plus en plus connectés, mais de plus en plus loin topologiquement. En outre, ils ont introduit, ces acteurs, leurs propres pratiques et formes de médiation. C'est comme les organisations internationales ou les organisations palestiniennes qui travaillent, d'une certaine manière, avec les organisations israéliennes dans cette infrastructure de permis. Chacun amène sa manière de faire. Alors c'est particulièrement flagrant, et sa manière de faire, chaque fois qu'on met sa manière de faire, en fait, vous avez progressivement une forme de congestion de ces réseaux de médiation. Donc là, je sors de la topologie pour essayer d'envisager la dynamique des flux. Alors c'est particulièrement flagrant si on se penche sur le trafic de vrais faux permis. Je peux vous dire que le parrainage, ce système de parrainage ouvre des opportunités extraordinaires pour une série d'acteurs qui désirent accroître leur pouvoir ou leur profit. Hein, et vous avez des entrepreneurs israéliens qui ont fait fortune avec ce système de parrainage. Qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu, si j'ai une entreprise et au lieu d'établir une demande formelle de permis auprès du bureau des paiements israélien pour 100 ouvriers, je vais en demander 200. Alors d'abord, ça, tout le monde le fait. Parce que vous ne savez jamais s'il n'y a pas deux ou trois ouvriers qui vont se faire refuser leur permis. Donc vous majorez toujours. Puis après, qu'est-ce que vous faites avec les autres permis ? Alors soit vous êtes sympa et vous les donnez aux gens, puis vous dites « bon, faites donc ce que vous voulez avec, et puis on garde des relations cordiales ». Mais vous avez quand même pas mal de gens qui vont dire « voilà, moi je vous les donne, mais on va multiplier le prix par deux. Il faut que je paye la division des paiements pour votre retraite, pour les charges sociales, patronales, etc. » Mais vous allez me donner aussi une petite commission, parce que finalement, vous ne travaillez pas vraiment pour moi, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En 2010, un permis de 6 mois, ça valait 1200 shekels par mois, c'est-à-dire 240 euros. Et il pouvait être vendu jusqu'à 360 euros, si on majorait un peu le prix. Donc la vente de 100 permis donnait un bénéfice de 12 000 euros par mois. Vous multipliez ça par 10 mois, ça fait 120 000 euros. C'est pas mal, vous achetez un beau studio à Aix-en-Provence. Alors, les travailleurs palestiniens qui justement récoltent ce type de documents, alors qu'est-ce qui se passe ? Ils passent légalement, donc ils rentrent dans les statistiques légales, mais ils travaillent illégalement en Israël. Alors, inutile de dire qu'un tel commerce ne peut pas se produire sans une chaîne complexe avec des intermédiaires très efficaces. Pourquoi ? Les permis ne sont délivrés que par les autorités israéliennes. Ça passe, il faut faire circuler l'état civil exact de l'ouvrier palestinien pour qui on demande un permis, ses différents documents d'identification, donc il faut des vrais documents, et il faut que le candidat passe un check auprès des services de renseignement israéliens. Et inutile de dire que si vous voulez faire de l'argent, il ne faut pas leur envoyer des types qui sont dans des partis ou liés à des partis. Donc il faut faire vous-même le check sur ces ouvriers palestiniens pour être sûr qu'ils vont rapporter de l'argent, en fait. Par conséquent, un entrepreneur israélien qui est impliqué dans un tel commerce, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit compter du côté palestinien sur un ensemble d'acteurs. Hein ? Et puis beaucoup, pour faire des enquêtes, pour savoir si tous ces gens n'ont pas vraiment de problème. Et puis il doit compter du côté israélien sur quoi ? Sur des comptables, sur des avocats, etc., qui vont créer de fausses activités pour justifier auprès des impôts le fait qu'il emploie 200 personnes et non pas 100 personnes. Donc vous n'avez plus simplement des chaînes de médiation pensées de manière individuelle. Vous avez des mécanismes de régulation qui se mettent en œuvre, hein, avec qui sont quelque part des phénomènes d'individuation, hein, avec plusieurs acteurs qui vont jouer comme un espèce de gros nœud à travers va filtrer un certain nombre de circulations. Mais qu'est-ce qui se passe, finalement ? Vous avez une multiplication des connexions, vous avez une réduction des réseaux des canaux de connexion qui deviennent de plus en plus étroits, hein, de plus en plus régulés, parce qu'il faut faire attention, il faut faire des enquêtes, il faut checker les gens qui passent, etc. Donc vous avez finalement de plus en plus de connexions entre Israéliens et Palestiniens, mais vous avez une forme de congestion des rapports entre ces gens, et surtout une congestion des rapports au sein de la population palestinienne. Alors j'en arrive à ma conclusion, et je vais terminer en 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, on voit que les effets spatiaux du régime de permis israélien vont bien au-delà du confinement territorial des Palestiniens et de la réduction de l'étendue de leur mobilité ou de la fréquence de leur mobilité géographique. Le régime de permis, il a généré le développement de chaînes formelles et informelles de médiation extrêmement diffuses qui articulent les champs d'action de multiples organisations israéliennes, palestiniennes, étrangères et différents types d'individus. C'est pour ça que là, on est obligé de parler d'infrastructures. Et une infrastructure qui va bien au-delà de la définition institutionnelle de ce régime de permis, qui n'est lui-même pas une institution. Alors si cette pratique spatiale, si on reprend la catégorie de Lefebvre, donc l'articulation de ces champs d'action, elle est particulièrement disjointe des espaces qui sont conçus, hein, que je vous montrais sur des cartes, où on voit des frontières, on voit certes une imbrication, mais tout est séparé, tout est bien séparé, le rouge d'un côté, le jaune de l'autre, le rose pâle, le gris, etc. Donc finalement, cette pratique spatiale, elle semble remettre en cause ces espaces conçus. En fait, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que si on réfléchit bien, ces réseaux, ils jouent un rôle central dans le confinement territorial des Palestiniens, dans la mesure où ils réduisent la circulation du flux d'informations et d'interactions, et ils réduisent la dynamique de circulation des vrais faux permis. Des vrais permis, des faux permis, etc., etc. Et même de la circulation des gens qui contournent les checkpoints. Donc, ces réseaux augmentent la complexité. Pourquoi ? Parce que ces réseaux, ils augmentent la complexité des procédures et ils rendent le fonctionnement du régime de permis de plus en plus opaque. Même si toutes les ONG ont compris comment fonctionne ou tentent à comprendre presque comment fonctionne ce régime de permis, au point de faire des petits jeux vidéo, un très beau jeu vidéo qui a été fait par l'association qui s'appelle Guicha sur le fonctionnement du régime de permis israélien, mais on est dans une définition très juridique et institutionnelle. Tout ça, ça n'a absolument pas droit de cité dans les rapports que font ces ONG. Ou alors on vous parle de corruption, de déviance. Mais on est encore dans une marginalisation de pratiques qui font fonctionner ce régime de permis. Et cette économie informelle, si vous voulez, comme je vous le disais, elle vient augmenter la... Elle n'est pas marginale, parce qu'elle augmente la distance topologique entre les deux populations et elle réduit la fluidité des canaux de médiation. Ceci nous conduit donc, je pense, à penser différemment le type d'asymétrie qui prévaut entre Palestiniens et Israéliens dans leur rapport à l'espace. Les travaux qui portent sur les configurations territoriales nous parlent d'espaces israéliens continus, lisses, contre des espaces palestiniens discontinus, fragmentés, striés. Hein. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique et rentrer complètement dans la dynamique des flux et nous parler d'espaces où non plus, pas simplement d'opposer l'un à l'autre, mais de parler de plusieurs spatialités. Vous avez des territoires continus opposés à des territoires discontinus ou fragmentés, mais vous avez aussi des spatialités fluides et des spatialités visqueuses. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de spatialités visqueuses. Car en saturant et en congestionnant les canaux de médiation, ces chaînes de relations, ou cette économie informelle, elle ralentit la dynamique d'interaction entre les Palestiniens. Et elle affecte aussi les relations entre Palestiniens et Israéliens, car elle cantonne ces deux populations dans des spatialités, des temporalités disjointes qui leur donnent l'illusion d'être séparés territorialement et d'être très loin les uns des autres, alors même que, comme je vous l'ai montré, le nombre de connexions s'est multiplié entre toutes ces populations. Et je parle de connexions, pas de liens. Je ne veux pas faire de hiérarchie entre des liens forts et des liens faibles. Tout ce que je vous ai montré, ce sont des liens faibles, mais des liens faibles qui sont déterminants dans la structuration de ces sociétés. Le problème de ces approches nationales et territoriales, c'est qu'elles sont obsédées par les liens forts. Et un certain nombre de liens forts extrêmement spécifiques. Donc, d'une certaine manière, le régime de permis israélien reproduit les effets de certaines technologies frontalières du capitalisme global et postcolonial qui ont été décrites par Shora Makarimi, par exemple, ou encore Sandro Mezzadra et Brit Nielsen, puisque ces technologies de contrôle, elles ne visent pas tant à séparer territorialement des populations, mais plutôt, comme je vous le disais, à les inscrire dans des temporalités, des spatialités qui leur donnent l'illusion d'être séparées les unes des autres. Merci de votre attention.